Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Cause Commune 93.1 FM. Il est 14h, donc bienvenue sur Rayon Libre. Racontez-moi le vélo aujourd'hui. D'où nous écoutez-vous? Du transistor? Et bien dans ce cas-là, sachez que vous pouvez aussi nous écouter en ligne, en streaming sur le web de cause-commune.fm. Ou si vous nous écoutez du web, alors si vous êtes parisien, sur 93.1 FM, ou sinon même en DAB+. Et si vous nous écoutez en podcast, par exemple sur Spotify, vous pouvez aussi nous trouver sur d'autres hébergeurs comme Apple par exemple. Bref, pour ne pas nous écouter, il faut vraiment le vouloir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, à mettre des commentaires, des cœurs, des je déteste, exprimez-vous, ça fera du bien. À propos d'expression, j'exprime un merci chaleureux à Olivier Gréco, qui est directeur de l'antenne de Cause Commune. Un merci reconnaissant à Abel Guggenheim, qui viendra poser sa réflexion hebdomadaire en fin d'émission. Un merci à Wills, qui relaie ses émissions aussi. Et un merci plein de gratitude à vous, auditeurs et auditrices. Vous le savez, il y a eu une votation hier à Paris pour ou contre le SUV. Le SUV, c'est un Sport Utility Vehicle. Chelou, hein ? SUV, c'est l'acronyme de Sport Utility Vehicle. Mais c'est marrant d'affubler le mot sport à une voiture qui n'est pas sportive par essence, lourd et pas aérodynamique. Le SUV est plus physiquement un pachyderme qu'un léopard. Marrant aussi, cette voiture n'est pas forcément si utile que cela. Ce n'est pas un SUV. Enfin, un SUV, c'est pas forcément un 4x4. Un SUV, ce n'est pas un pick-up ni une fourgonnette. SUV, c'est un segment d'automobile à la mode. Des voitures haut perché sur le pneu avec un habitacle généreux en largeur et en hauteur. Parfois en longueur aussi. Même si un SUV est généralement plus court qu'un monospace. Toutes les voitures se SUVisent et les vélos aussi, on y reviendra, on en a déjà parlé quelque part, bref on en parlera. Un SUV est finalement une promesse de confort et d'espace pour ceux qui décident de se glisser dans l'habitacle. SUV n'est pas l'acronyme de super utile vélo, qui de toute manière, vous en conviendrez, est un double pléonasme. Un vélo c'est toujours super, c'est toujours utile, même si ceux qui n'y connaissent rien trouveront facilement qu'un vélo, ça ne peut servir à rien et être super nul. Aujourd'hui avec Patrick Garcia qui anime cette émission aussi sur Cause Commune, les comptes c'est du sérieux. Avec Patrick Garcia nous allons découvrir qu'au Japon, on n'a pas attendu l'arrivée des SUV pour que le vélo soit considéré comme un SUV. On va causer Kamishibai. C'est quoi ça, un Kamishibai? C'est un spectacle de rue utilisant le vélo comme véhicule et support artistique. En gros, les Japonais, c'est pas des guignols. Le vélo, dans cette émission, va être un prétexte. Restez avec nous pendant 30 minutes qui suivent et à la fin, vous saurez donc ce que c'est qu'un Kamishibai. Bonjour Patrick Garcia et merci de venir à notre micro aujourd'hui.
Bonjour.
On rentre dans le vif du sujet, Patrick.
Oui.
Un Kamishibai, c'est quoi?
Kamishibai. Théâtre de papier.
Théâtre de papier.
C'est ce que veut dire le mot en japonais.
Donc kami c'est théâtre et bai c'est papier ou c'est l'inverse?
Kami théâtre je crois et shibai oui. Papier ou... Ouais puis les japonisants mettront ça dans le bon ordre.
on les invite à nous dire. Donc c'est un théâtre de papier. Quel est le lien aujourd'hui entre un Kamishibai et une émission qui s'appelle Rayon Libre qui traite du sujet vélo?
Alors, il y a eu toute une période au Japon, grosso modo, hein, pour faire vite l'historique. Ça apparaît dans les années 20, grosse dépression au Japon, gros effort de guerre, plein de gens perdent leur boulot habituel. Et y a des gens qui, pour survivre, vont dans les rues, alors dans les différents quartiers pour les grosses villes, Tokyo, Osaka, et dans les campagnes. Et pour survivre, ils racontent des histoires. Mais ils racontent pas des histoires n'importe comment. Ils se déplacent en vélo. Il n'y a pas d'autre moyen de se déplacer à cette époque-là au Japon.
Ouais.
Et ils installent une boîte avec dedans un petit théâtre en bois.
Ouais.
Dans lequel ils placent des
feuilles de papier.
Des feuilles de papier, de carton en réalité, hein, avec des dessins. Et tout l'art est d'illustrer ce que dit le conteur avec des dessins.
D'accord.
Ça leur permet de se déplacer.
De transporter leur matériel.
De transporter le matos. Pour vivre, pour survivre, je dirais, ils vendent des bonbons.
Mais aux enfants aux qui enfants. Viennent assister c'est à ça. Ces spectacles ouais. de rue.
Voilà. Alors, les enfants qui ont acheté des bonbons ont le droit de se mettre plus près des images du compteur.
Du compteur. Bon. Eh bien oui, il faut bien un petit privilège. Ah bah, et, voilà. et donc, ce que vous êtes en train d'expliquer, parce qu'on en reviendra, on y reviendra juste après, le kamishibai, ça existe depuis le 12e ou 13e siècle. Dans les années 20, le vélo est devenu une solution pour aller d'un village à l'autre, une solution économique et une solution pour aller vite d'un village à un autre pour présenter son spectacle de rue et pour survivre.
C'est ça. C'est ça, c'est pour transporter. Le kamishibai existe, les histoires sur des images, ça remonte au 12e siècle, comme tu le disais, ouais. quoi. Mais là, bah, des gens se sont mis à dire, eh ben, on va aller présenter ça là où il y a du public potentiel, quoi. Et je te dis, avec la dépression qu'il y avait à cette époque-là, ben, il n'y avait pas d'autre moyen de se déplacer, quoi.
Est-ce que tu sais, avant que le vélo arrive, avant la dépression, comment ils se déplaçaient, ces gens? Ils se déplaçaient à pied? Au XIIe siècle, comment on se déplaçait?
Je suis pas sûr que ça ait été utilisé de la même manière. Au XIIe ouais. siècle, c'était surtout ça se faisait dans les temples bouddhistes. Ouais. C'était un petit peu le rôle des vitraux qu'on a dans nos cathédrales. Quoi.
D'accord.
Hein, c'était très moralisateur. C'était pour raconter des histoires édifiantes aux gens qui allaient dans les temples. Donc le rapport qu'il y a entre les deux, c'est image dessinée et discours, conte, histoire à côté.
D'accord. Alors toi aujourd'hui tu es conteur.
C'est ça, oui.
Tu fais du kamishibai par ailleurs, c'est ça?
C'est ça. En tant que conteur, compte des histoires kamishibai.
Est-ce que c'est forcément des histoires pour les enfants?
Alors le gros qu'on trouve aujourd'hui, oui, c'est sûr. Oui. Voire même pour les tout petits. Je me plais à raconter des histoires à double entrée.
Hein, okay.
Ou le papa qui est trois pas derrière sur son téléphone, quand à la fin de l'histoire, je vois qu'il a posé le téléphone et puis qu'il me regarde attentivement, puis lui, il a compris un truc que le gamin n'a pas compris. Ça me fait plaisir. Je dis que j'ai gagné mon jour.
Et donc, tu te déplaces aujourd'hui. Enfin, on en reviendra après la deuxième partie d'émission. Je pense qu'au fait, on a besoin. Enfin, moi, j'ai un peu préparé l'émission, donc je sais un peu ce que c'est qu'un kamishibai, mais peut-être revenir un peu justement sur cette culture-là. Aujourd'hui, c'est une culture qui existe encore ou elle a été complètement effacée par nos écrans?
Alors elle revient. Tiens, tu parles d'écran, c'est rigolo parce que c'était après-guerre, c'était le gros boom du kamishibai. On dit
après la première guerre, 14,
deuxième guerre mondiale.
45, en
45, après Hiroshima, Nagasaki, oui. quoi, hein, la oui. défaite du Japon, et l'horreur totale au Japon. Et c'est là où il y a plein de gens qui sont trouvés sans emploi, sans revenus, etc. On dit qu'on estime qu'il y avait à peu près 50 000 compteurs. Gaito en japonais, c'est compteur de rue, quoi. C'est
ouais.
Kamishibai. Et quand la télé est arrivée dans les années 50, le premier mot populaire pour désigner la télé, c'était Kamishibai électrique.
Ouais, d'accord.
Et puis le vocabulaire est venu avec, et maintenant on parle plus de ça, mais c'est assez rigolo, quoi, parce que la référence d'avoir un cadre et puis dedans une image, ouais. c'était le Kamishibai.
Sauf qu'on n'était plus en papier.
Et ben quand la télé est venue, ben c'était un truc électronique, quoi.
Et aujourd'hui, c'est une culture et un art qui s'est exporté. Alors, on disait juste avant, toi, tu en fais en France, mais est-ce que c'est un art qui s'est exporté ailleurs qu'au Japon et dans une moindre mesure en France?
Oui, ça s'est exporté partout autour du monde. Je citerai un pays où c'est absolument un sport d'État, c'est le Pérou,
ouais.
où il y a eu historiquement une forte immigration japonaise. Et je nommerai Pepe Cabana qui a porté cet art-là à un niveau d'art national, quoi.
Et Pepe Cabana, il est toujours en vie, il est toujours.
Ah oui, ouais. toujours, oui.
D'accord. Et après, à chacun. Donc, au fait, le kamishibai, si je comprends bien, c'est une façon de raconter l'histoire.
C'est ça.
Et après, les histoires, chacun y met ce qu'il a envie. Quand toi, tu crées tes contes, tu racontes ce que tu as envie. C'est pas forcément, est-ce qu'il y a un narratif kamishibai?
Oui, je dirais, dans ce sens que, dans l'immense majorité des cas, c'est à destination des enfants.
Ouais.
La manière de faire des dessins, pour moi, est hyper importante, et là je suis totalement l'école japonaise pour ça. C'est regardez Astérix ou Tintin, c'est ouais. la ligne claire, quoi.
Ouais.
Il faut que ce soit clair, même si on est à 5 mètres, il faut ouais. qu'on le voit tout de suite.
Ouais.
Donc oui, c'est ça. Puis il y a une particularité, le kamishibai est très populaire, même en France, dans les médiathèques, dans les bibliothèques,
ouais.
pour raconter. Avec une particularité, c'est que lorsqu'il y a une image vers le public, le conteur peut se mettre derrière et lire l'histoire.
D'accord.
Je pratique pas ça personnellement, mais bon, voilà, c'est ce qu'on voit le plus quand on va dans les médiathèques. Hein.
Donc, ça veut dire qu'on a l'image qui est présentée au public, la face recto qui est au public, et le verso, c'est l'histoire et donc qui raconte l'image, en quelque sorte.
Comme quand on a un livre de contes où on lit à un enfant l'histoire qui est sur la page d'à côté ou juste en dessous.
Bien sûr. Ben
là, c'est derrière, quoi. Ce qui permet au narrateur de faire des voix. S'il veut incarner les personnages, faire des bruitages ou des choses comme ça.
C'est hyper intéressant, parce que d'un autre côté, c'est ce qu'on va voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites du kamishibai, ça veut dire que pendant une heure ou une demi-heure ou trois quarts d'heure, je ne sais pas combien de temps ça dure combien de temps d'ailleurs un conte, c'est variable.
Les contes c'est très très court, hein, c'est ça, entre 5 et 10 minutes, souvent 5 minutes. Hein.
Donc pendant 5 minutes, le public, l'enfant, il voit qu'il y a un vélo est-ce que le vélo fait partie du décorum. Est-ce que le vélo fait partie et est intégré dans l'histoire ou pas du tout?
Alors, pas du tout, sauf que moi, je tiens à l'héritage japonais.
Ouais. Et donc, ça veut dire que les enfants, ils voient un vélo, et ils voient pas un vélo sur lequel on pédale, vous partez avec et vous arrivez avec, mais ils voient un vélo pendant 5 ou 10 minutes, ils se rendent compte qu'il y a un vélo.
Sur le porte-bagages, une grosse boîte.
Ouais.
Et on a un système pour accrocher le petit théâtre sur cette grosse boîte.
D'accord.
Et moi, je suis tout à fait en phase avec la manière japonaise de le faire. Je suis debout à côté du vélo, donc à l'arrière du vélo. Hein.
Ouais.
Moi, tel que je le mets, le vélo est parallèle au public. Hein, le public voit les deux roues.
Hein. Ouais.
Et le kamishibai, le petit théâtre, s'ouvre vers le public, il est sur le porte-bagages, et moi, je suis derrière la roue arrière, perpendiculaire à l'axe du vélo.
Alors, en deuxième partie, parce qu'il est 14h12, donc on va faire l'agenda et la pause musicale, mais en deuxième partie, vous allez nous raconter justement l'expérience que vous avez, vous, et où est-ce que vous vous produisez, et ce que ça génère, et je trouve qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai truc de création d'imaginaire autour du vélo, qui, à mon sens, n'est pas du tout exploité aujourd'hui, en tout cas autour du kamishibai, mais on va y revenir. Pour l'instant, que voir, que faire, que lire ou pédaler cette semaine qui s'annonce, en sachant que vous écoutez toujours Rayon Libre, nous sommes avec Patrick Garcia, il est conteur. Il anime une émission ici, Les Contes c'est du sérieux, ici sur Cause Commune, et il vient nous parler d'un art japonais qui est le kamishibai. Samedi 10 février prochain, les athlètes handisport mettront le cap sur les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc pour le championnat de France indoor d'athlétisme handisport. Donc ça, c'est un truc intéressant, parce que ça aide notamment pour les qualifications au JO. Qu'est-ce que vous pouvez écouter? Quand vous avez écouté les 239 rayons libres, vous pouvez aller sur Radio France, la conversation scientifique. Y a-t-il une métaphysique du vélo? Une émission proposée par Étienne Klein, et l'invité est Philippe Bordas, un écrivain. Alors en l'écoutant, vous n'aurez pas vraiment la réponse à la question, il n'empêche, le propos reste intéressant. Et puis toujours écouter, quand vous revenez sur Cause Commune, et ensuite écoutez les contes de Patrick, c'est du sérieux, Cosmogonie par exemple, ou encore la prochaine qui arrivera dimanche prochain, de 20h30 à 22h. Vous êtes sur Cause Commune, 93.fm, Rayon Libre, il est 14h, quelle heure il est? 14h14 bientôt, 14h13. Lundi 5 février 2024, et vous vous apprêtez à écouter, je pouvais pas mettre autre chose, il fallait que je mette Tomuya, la bicyclette, c'est un classique ici chez nous, un japonais à Paris, un classique de Rayon Libre, et je vous dis à tout de suite.
Kakete oka okake noboru asa no michi jitensha nakama no wanpaku 5人 ga akogareru hito wa atoretto kanojo no mae de wa dare mo ga otona no見えない天使の羽つけて走る水平線まであビシクレット郵便を配るパパを追いかけて長い道 転車乗りなら八つの時から誰にも負けない。アートレット、みんなで自転車投げ出し無邪気に遊べば、蝶々やバッタやカエルも飛び出す川のほとりまで。アビシクレット思想な戻り道、仲間にはぐれて疲れてまどろむ触れてはならない。
Faut quand même reconnaître que ça a un peu plus de modernité qu'Yves Montand. Il est 14h, bientôt 17 sur 93.fm. Vous écoutez Rayon Libre sur Cause Commune. Je suis avec Patrick Garcia. Il est conteur, animateur radio. Il nous fait découvrir l'art du kamishibai. Patrick Garcia, c'est un peu notre Pépé Cabana à nous. Et ce qu'il nous raconte aussi quand même, Patrick, c'est que, encore une fois, le vélo, c'est une solution en temps de crise des personnes, le kamishibai. Donc c'est du théâtre, du spectacle de rue. Et pour aller d'une rue à une autre ou d'un village à un autre, et bien les artistes japonais ont tout posé sur un vélo pour aller se promener et pour pouvoir se déplacer facilement. Patrick, vous pratiquez l'art du kamishibai ici en France.
Oui, bien sûr.
Comment vous vous en servez comment? Parce que l'art du kamishibai, c'est aussi de l'éducatif, notamment. Est-ce que vous emmenez les enfants à raconter eux-mêmes et à créer eux-mêmes leur propre histoire?
Alors ça, c'est ce qui se pratique dans des écoles, dans les bibliothèques, les médiathèques et tout ça. J'anime des stages de kamishibai. Pour l'instant, j'ai fait que pour des adultes. Mais oui, c'est tout à fait adapté pour... C'est absolument génial, c'est pas adapté, c'est génial pour les classes de primaire, notamment les premières classes, hein, où on apprend à lire et à écrire.
Alors ça va être en CP, en dernière année maternelle.
CP, CE1, quand on... Pour des enfants qui ont du mal à entrer dans l'écriture ou la lecture, voire même la graphie, ils font quelque chose de concret et ils s'aperçoivent que finalement, bien écrire, bien former ses lettres, c'est vachement important pour que quelqu'un d'autre puisse lire.
Oui.
Et donc, ils vont analyser une histoire, faire le plan de l'histoire.
La découper,
faire le découpage, c'est ça. Dessiner avec toutes les techniques de dessin, collage, et tout ce qu'on peut voir. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut faire correspondre les textes de l'histoire avec les images. Ouais. Après le dessin, derrière la planche, il va falloir écrire suffisamment bien pour que quelqu'un d'autre puisse lire. Et puis, un enfant qui est un peu timide pour lire à haute voix devant, il a la possibilité de se cacher un petit peu derrière le petit théâtre et de lire ça. Et là, on va peut-être pouvoir l'inciter à porter un peu la voix.
Ouais.
Et vu qu'il n'a pas le regard de ses petits camarades,
il va s'exprimer
et travail d'équipe. On va faire une équipe, ceux qui dessinent, ceux qui découpent l'histoire, ceux qui écrivent sur leur... Il faut écrire un petit peu en grand pour que ce soit lisible, etc. Donc on peut avoir une équipe de 4-5 enfants qui vont comme une équipe de cinéma, quoi.
Donc vous êtes en train de me dire que vous croulez sous les appels pour aller proposer des animations de kamishibai dans les écoles, dans les mairies, dans les municipalités, dans les médiathèques?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait. Moi, je me propose surtout en conteur. C'est-à-dire que il y a des histoires qui sont morales, il y a des histoires qui proposent des choses. Je raconte l'histoire du mieux que je peux pour que le public se sente pris par l'histoire. Ça, finalement, ça n'a rien à voir avec nos écrans de télé qui font la largeur de la pièce. Hein, on se retrouve à une époque où ça fait pas 40 cm de large. Pourtant, on va arriver à capter. Et moi, c'est ça mon truc. Je suis conteur d'abord.
Oui.
Donc, je lis pas derrière. Hein, je suis pas derrière. Je suis à côté. Je suis là en tant que Patrick et je raconte les histoires. Et puis, tiens, une petite anecdote. La dernière fois où j'ai fait ça, le 7 décembre, c'est la Journée mondiale du Kamishibai.
Le 7 décembre, tous les ans.
Tous les ans.
Prenez note, chers auditeurs, chères auditrices. Le 7 décembre, Kamishibai.
Et c'est très symbolique. Parce que le 7 décembre, c'est l'anniversaire de la bombe sur Hiroshima.
Ouais.
Donc le mouvement, je fais partie de l'association internationale japonaise IKAJA pour le Kamishibai. Et ce qu'on veut véhiculer, c'est un message de paix.
Ouais.
Et ce 7 décembre-là, j'étais à la bibliothèque glaciaire dans le 14e, là. Et j'ai tiré une image, il y avait une sorcière, une méchante comme ça. Et... les deux petites filles qui étaient juste devant moi, elles ont fait un bond en arrière, elles ont eu peur. C'était juste une image, en fait. Elle est risible, l'image, hein, c'est très... Mais ça veut dire qu'elles étaient complètement dedans.
Elles étaient prises par l'histoire que vous racontiez, que tu racontais.
Ça. Ouais. Et c'est ça. Moi, ma manière, j'ai décrit la manière pédagogique, l'utilisation en classe, qui est fabuleuse, hein. Je suis pas enseignant, mais moi, je suis conteur. Et voilà, ça me permet de raconter une histoire un petit peu autrement, quoi.
Et alors, tu y vas à vélo? Tu poses ton Kamishibai sur un vélo à toi, perso?
Oui, j'ai un vélo, un grand vélo style...
hollandais, un peu.
Vélo à mémère hollandais, là, tout noir, quoi. Et derrière... on a construit une boîte. Pour l'anecdote, c'est un de mes fils qui l'a fait, qui aime beaucoup le travail du bois, et il l'a fait avec une technique japonaise de travail du bois.
Ouais, d'accord.
Je suis voilà
pour aller
en face,
jusqu'au boutiste.
Ouais, c'est ça. Et puis, je déplie ça, je mets une banderole, je mets des fleurs, je décore un petit peu. Le vélo devient un espace scénique.
Est-ce qu'il devient un personnage? Non, hein. C'est un élément du décor. Il est sur la scène. Ça veut dire que pendant 5 ou 10 minutes, nos enfants et notre public, il est devant un vélo, malgré tout.
Ah ben là, je te dis, pour le 7 décembre, je prends cet exemple-là, la bibliothèque glaciaire. Eh bien, pendant 3 quarts d'heure, je suis entré dans la bibliothèque avec le vélo, c'était la condition. Hein. Ils utilisent le Kamishibai, hein. Les animateurs sont actrices, sont des copines, mais ils posent le Kamishibai sur une table ou quoi. Ben non, moi je le fais avec le vélo, quoi. Ouais. Donc j'ai entré le vélo, il faisait partie du décor.
Ouais.
C'est une idée que je retiens, hein, personnaliser, faire que ce soit un personnage. Tiens, c'est je vais creuser cette
histoire. On va la creuser parce moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est un peu ce qu'on disait on se disait hors micro en préparant l'émission. Il y a tout un imaginaire qu'il faut construire et à mon sens qu'il faut construire autour du vélo qui va au-delà de la piste cyclable, au-delà du parking. Moi, je découvre le Kamishibai en discutant ici chez Radio Cause Commune avec Joseph, ton fils, qui me dit mais pourquoi t'invites pas Patrick pour parler du Kamishibai? Je dis mais c'est quoi le Kamishibai? Pourquoi est-ce que les organisateurs de salons, les organisateurs de journées, on a tous une brocante du vélo avec venez faire vos smoothies, etc. Il faudrait proposer ce genre de spectacle, non?
Ah ben alors là, oui. Et puis on entre on retourne dans l'utilisation première du vélo et du Kamishibai, où le conteur va au devant de son public. Je suis partant à 100%.
Et en plus de ça, on est sur un véhicule qui rentre partout, qui est facile d'accès. Développons ce système, développons le Kamishibai auprès de nos enfants. Il y en a qui vont aller faire du BMX, et quand ils sont encore un peu plus petits ou autres, proposez-leur des histoires. Puisqu'on parle d'enfants et qu'un truc qui est quand même très à la mode aujourd'hui, ça s'appelle, en tout cas, on le voit auprès de nos ados, ils lisent beaucoup, beaucoup de mangas. Il y a du Kamishibai autour du manga?
Alors, je prends ton expression à l'envers.
Ouais.
Les premiers auteurs de mangas étaient des dessinateurs et des auteurs de Kamishibai.
D'accord.
Une histoire qui a eu 1000 épisodes, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans les années 50 au Japon, c'était l'histoire de Ogon Bato. La chauve-souris en or.
Ouais. Voilà, hein.
Et c'est l'ancêtre des Superman, Batman et autres super-héros. Le premier super-héros de l'histoire, dessiné avec des histoires avec des méchants, très méchants et très pas beaux. Et puis lui qui vient sauver la petite fille en volant dans les airs, c'était des histoires racontées avec le kamishibai.
Donc t'es en train de me dire qu'on pourrait faire du One Piece, ce manga très célèbre aujourd'hui, en kamishibai.
Oh bah totalement.
Allez, et ben c'est parti. En attendant, on va quand même pas écouter, parce qu'il est bientôt 14h25, on va écouter Abel Guggenheim. Abel Guggenheim, il va nous parler du sentier des lapins, le chemin des chèvres, la ligne de désir. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Quand vous vous déplacez en train ou en voiture, l'infrastructure sur laquelle roule le véhicule dans lequel vous vous trouvez a été longuement étudiée en fonction de la réalité des possibilités de déplacement de ce véhicule. C'est ainsi par exemple que le rayon de courbure des autoroutes et lignes de train à grande vitesse est plus grand que celui des routes ou lignes de train classiques. C'est aussi vrai dans les détails. Le passage d'une ligne droite à l'arc de cercle d'un virage se fait généralement par une courbe, dénommée clotoïde, qui permet un passage progressif de l'une à l'autre. Ces régularités sont d'ailleurs perceptibles par l'aspect esthétique de ces infrastructures en vue aérienne. Avez-vous observé qu'il n'en est pas du tout de même pour les infrastructures permettant de se déplacer à pied ou à vélo ? Pour les piétons, l'écart entre leur trajectoire naturelle et les infrastructures qui leur sont proposées se traduit par ce qu'on appelle parfois ligne de désir, chemin des chèvres ou sentier du lapin. C'est ce raccourci tracé à travers une surface herbeuse à la suite du passage répété de personnes à pied qui n'ont pas voulu la contourner et que vous entraînez vous-même par votre passage. On est souvent étonné, lorsqu'on voit ces raccourcis, que les aménageurs n'aient pas perçu l'utilité évidente de ces raccourcis, compte tenu des lieux qu'ils permettent d'atteindre et de la longueur des détours sinon imposés. Ces itinéraires sont parfois officialisés ensuite par la puissance publique. Une autre façon de visualiser ces lignes de désir des piétons se présente lorsqu'il neige, ce qui efface les repères visuels des piétons et donne libre cours à leur créativité d'itinéraire. C'est encore plus vrai pour les cyclistes, qui parfois vont jusqu'à préférer rester sur une infrastructure automobile, même lorsqu'une piste cyclable aurait proposé parallèlement, simplement parce que le tracé de cette piste est par trop biscornu. C'est surtout lors du changement de direction que l'écart entre le souhaité et le réel est plus sensible. On est souvent frappé par l'existence, sur les aménagements cyclables, d'angles, là où les cyclistes souhaiteraient évidemment voir des courbes. On peut pardonner à celui ou celle qui conçoit ces pistes cyclables de ne pas être au fait de certaines subtilités dans le cheminement des cyclistes, mais des cyclistes qui tournent à angle droit, sauf au cirque, ça n'existe tout simplement pas. Peut-être du fait de l'expérience, l'angle droit qu'on a pu voir à certaines époques, où la baïonnette a deux angles droits successifs, ne se rencontre heureusement plus. Mais on continue à voir fleurir des angles en diagonale à 135 degrés, ce qu'on nomme parfois par analogie avec l'angle formé par les aiguilles d'une montre, un angle à 10h30 ou à 1h30, et surtout des successions en baïonnette de deux tels angles. Sans doute esthétiquement intéressant pour l'architecte qu'il dessine, mais plutôt obstacle pour les cyclistes. On mettra sur le site de l'émission la photo d'une telle baïonnette où les traces visibles du passage des cyclistes montrent clairement que dans les faits, cet aménagement aboutit à une étroitisation de la piste. À lundi prochain.
Merci beaucoup Abel. Alors c'est bientôt la fin de l'émission. Patrick, où est-ce qu'on peut vous trouver et où est-ce qu'on peut vous contacter ?
Alors je fais partie d'un collectif de conteurs qui s'appelle Histoire et Compagnie. Sur Google ça sort. Hein.
Sur la moteur de recherche,
ouais. Histoire avec un S et CIE. L'onglet conteurs, vous cherchez le barbu et puis vous tomberez sur ma page.
Un grand barbu avec une barbe très très longue, ce sera lui qui fera sursauter les petites filles. Et les petits-enfants.
En racontant des histoires.
En racontant des histoires, évidemment. En racontant des contes sur Camille Shibai. Auditeurs, auditrices, vous pouvez retourner à vos occupations, enfiler un casque si vous avez des cheveux secs. S'ils sont mouillés, vous pouvez envisager de les laisser sécher au vent. N'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. La semaine prochaine, on va au Mans, causer du Festival International du Cyclo-Camping. Je crois pas qu'il y aura de Camille Shibai là-bas. Et pourtant, on aurait pu. Je vous dis à la semaine prochaine. Vive Cause Commune, vive Rayon Libre, et puis vive le vélo. Restez sur 93.fm, Cause Commune. Il est 14h30, bientôt, et je vous dis à la semaine prochaine.